Voici donc l'accent des autres. Bienvenue, comme chaque semaine, ce sont donc les grandes lignes de l'actualité de ces derniers jours vues par les médias francophones publics. Les partenaires, ce sont comme d'habitude la Radio-Télévision Suisse, RFI, Radio-Canada, France Bleu et la RTBF. Avec d'abord cette présentation du gouvernement suisse, Pierre-Henri Chauffat. Il avance un plan de mesures pour se prémunir d'une pénurie d'électricité.
Toute une gamme de mesures progressives qui vont de la lessive à 40 degrés maximum jusqu'à une réduction forcée de la consommation des entreprises énergivores.
L'hommage également cette semaine en France à l'agent du fisc tué par un brocanteur qui s'est ensuite suicidé. Les menaces à l'égard des agents des impôts sont régulières.
Souvent, effectivement, les gens profèrent des menaces de mort, hein, clairement, à l'encontre des agents des finances publiques. Hein. C'est déjà arrivé.
Reportage dans quelques instants au centre des impôts de Périgueux. En Belgique, c'est le premier match des Diables Rouges qui a retenu l'attention. Une rencontre de Coupe du Monde disputée contre le Canada, Jacques Kremers.
Oui, et une rencontre remportée 1-0 par l'équipe nationale belge, mais le pire match disputé par les Diables Rouges depuis plusieurs années.
Un match que les Canadiens auraient mérité de remporter. Benoît Audet, vous avez voulu de votre côté, au Canada, souligner l'entrée en scène de votre équipe nationale dans cette Coupe du Monde au Qatar.
Oui, pour une sélection qui était jusqu'à maintenant peu habituée à briller sous les feux de la rampe sur la scène internationale.
Et puis, sur le continent africain, nous avons retenu ce pas supplémentaire dans l'escalade entre Paris et Bamako. Le Mali interdit désormais les activités des ONG financées par la France, Nicolas Sûr.
Oui, la décision est à effet immédiat et elle concerne aussi les organisations œuvrant dans le domaine humanitaire.
Et voilà donc pour les titres de cette semaine. La Suisse détaille donc son plan de prévention face à une potentielle pénurie d'électricité. Et Pierre-Henri, cela va jusqu'à des restrictions à propos des lessives.
Nous devons nous préparer au pire, a dit le ministre de l'Énergie. Effectivement, Olivier, cela passe par toute une série de mesures que pourra décréter le gouvernement, à commencer par les lave-linges des ménages qui ne devront pas être utilisés à plus de 40 degrés. La première phase toucherait en effet la consommation d'électricité de la population de manière progressive. Et puis, la vitesse pourrait être réduite à 100 km à l'heure sur les autoroutes.
Alors question, pourquoi la vitesse ?
Eh bien, les véhicules électriques consommeront moins. Alors c'est vrai, ils ne sont pas majoritaires, mais les voitures à essence feront aussi moins souvent le plein. Et oui, les pompes à essence fonctionnent à l'électricité. Notre gouvernement a vraiment pensé à tout. Et il pourra également interdire de recourir à l'électricité pour certaines activités, comme les stations de lavage des voitures ou couper Netflix et les autres plateformes de streaming. La fermeture des stations de ski, je vous rassure Olivier, n'interviendrait que dans la quatrième phase.
Et si ces mesures ne suffisent pas ?
On contingenterait alors les entreprises grosses consommatrices. Elles sont 34 000 et consomment la moitié de l'électricité produite en Suisse. La mesure serait donc efficace, mais très coûteuse pour l'économie. Le but, c'est donc de l'éviter. Mais cette issue serait moins grave que de devoir recourir à des délestages, soit de couper le courant durant plusieurs heures, une région après l'autre. Un scénario que ne veut pas envisager le chef du groupe socialiste au Parlement, Roger Nordmann.
Les coupes tournantes, c'est la situation en Ukraine, où le réseau ukrainien n'arrive pas à produire assez d'électricité à cause des attaques russes. On ferme pour 4 heures, puis après 4 heures dans un autre quartier. Et ça, c'est catastrophique, parce que tout fonctionne à l'électricité. Et plus on fera des économies volontaires, en faisant un peu attention à tous les petits gaspillages, moins on a de risques en Suisse.
Le gouvernement s'est donc préparé au pire, tout en se montrant rassurant sur le risque relatif de pénurie pour cet hiver.
Une minute de silence à présent au ministère français de l'économie et dans les centres des impôts régionaux cette semaine. Un hommage a donc été rendu à l'agent du fisc tué dans le Pas-de-Calais il y a une douzaine de jours maintenant. Ça s'est passé lors d'un contrôle chez un brocanteur qui s'est ensuite donné la mort. Un drame dont on a encore beaucoup parlé en France cette semaine, Eric Valmire.
Le brocanteur attendait l'agent. L'inspectrice qui l'accompagnait, elle, n'a pas été tuée, mais ligotée. Elle est aujourd'hui sous le choc, comme dans tous les centres de finances publiques. D'ailleurs, l'émotion était vive dans les hommages rendus. Emmanuel Clavry, au centre des impôts de Périgueux.
Je vous demande de vous recueillir, de penser à nos collègues. Donc je vous demande d'observer cette minute de silence.
Réunis en cercle dans le hall du centre des finances, ils sont une petite centaine à être descendus des étages pour rendre hommage à leurs collègues du Pas-de-Calais. Parmi eux, Catherine Gau, en charge de la prévention santé et sécurité au travail pour les agents de la Dordogne. Elle redoutait qu'un tel drame ne se produise un jour.
Souvent, effectivement, les gens profèrent des menaces de mort, hein, clairement, à l'encontre des agents des finances publiques. Bon, c'est pas quotidien, Dieu merci, mais ça peut arriver. C'est déjà arrivé.
Le contexte actuel, particulièrement tendu, a peut-être pu jouer les déclencheurs, estime pour sa part Fabrice Archambault de Vancey. Il dirige la brigade de vérification de la Dordogne.
Forcément, il y a eu aussi la crise Covid, clairement, qui a joué, plus certainement tous les sujets peut-être aussi liés actuellement à l'actualité. On parlait de l'inflation. Certaines entreprises, sociétés sont forcément en difficulté, mais cela ne doit pas justifier et encore moins banaliser l'acte odieux qui s'est déroulé.
Placés en berne à l'annonce du drame, les drapeaux tricolores ont de nouveau été hissés. Nous sommes certes en deuil, a expliqué le directeur départemental des finances publiques, mais nos missions sont indispensable à la vie de ce pays et nous continuerons à les exercer.
Emmanuel Clavry de France Bleu Périgord. Un acte prémédité, estiment les premières investigations, mais ce sera à l'enquête de le déterminer.
Éric Valmire pour France Bleu.
L'accent des autres.
En Belgique à présent, les Diables Rouges n'ont pas rassuré leurs supporters cette semaine. Ils ont tout de même gagné leur premier match en phase de poule à la Coupe du Monde de football. 1-0, Jacques, face au Canada.
Un tout petit but et un tout petit match. Écoutez ce qu'en disait notre collègue de la rédaction des sports, Manu Jousse.
Le match que les Diables Rouges ont livré hier contre le Canada est probablement le pire depuis le début de l'ère Martinez il y a 6 ans. À la pause, c'était un véritable miracle qu'il ne soit pas mené et la Belgique a été bousculée comme rarement par une équipe qui aurait mérité de mener 3-4-0.
On l'a compris, pas de quoi pavoiser du côté belge, même si l'entraîneur Roberto Martinez ne retient que la victoire et les 3 points. Les Canadiens ont surpris par leur qualité. C'était aussi l'avis du capitaine des Diables, Eden Hazard.
Ils ont de super bons joueurs, on n'a pas réussi à les embêter. On marque un beau but, certes, mais je pense que sur la première mi-temps, on doit faire beaucoup mieux. Deuxième mi-temps était un peu mieux, il y avait plus d'espace, parce que aussi on a plus géré avec le ballon, on a été meilleur. Mais voilà, ouf, ils vont vite, ils sont rapides, ils sont techniques, et voilà, c'était compliqué. Heureusement qu'on a un bon gardien qui nous laisse dans le match. Donc voilà, on peut lui dire merci aussi aujourd'hui. Et voilà, rien à ajouter.
Voilà, effectivement, rien à rajouter côté sport. On attend maintenant le prochain match des Diables ce dimanche face au Maroc. Par contre, côté politique, Jacques, la ministre des Affaires étrangères avait fait le déplacement au Qatar avec l'intention de délivrer un message fort.
Adjel Habib était dans la tribune officielle. Elle a assisté au match avec au bras le brassard One Love interdit par la FIFA.
Je pense que c'était un geste symboliquement fort qu'il fallait que la Belgique porte. Je sais qu'Eden Hazard, le capitaine de l'équipe des Diables Rouges, aurait voulu le porter sur le terrain, que la ministre des Affaires étrangères en soit la porte-parole quelque part dans les gradins. Voilà, je pense que c'était un message important à livrer.
La ministre qui était assise à côté du président de la FIFA, Adjel Habib, qui a aussi fait part à son homologue de ses inquiétudes sur les conditions de travail des immigrés et sur les droits humains. Ces messages sont donc bien passés, même s'il en faudra plus pour infléchir les positions qataries et de la puissante fédération.
Oui, de nombreuses questions et de quoi s'indigner au sujet de cette Coupe du Monde. Effectivement, reste que sur le terrain, l'entrée en scène de l'équipe du Canada aura été sérieusement remarqué ces derniers jours, malgré une défaite donc. De nombreux fans étaient sur place au Qatar pour assister au premier match du Canada à cette Coupe du Monde, mais depuis plus de 35 ans, depuis 1986, Benoît.
Des fans présents et bruyants, on a pu les entendre tout au long du match. En voici quelques-uns à leur sortie du stade.
Bien joué, mais bon, dommage.
Je suis très hâte à voir le prochain match parce que je pense qu'ils ont une chance.
Je pense que le Canada va faire une belle performance. Ils jouent contre une très bonne équipe. Puis, en fait, ils ont manqué plusieurs chances. Puis ça a été une performance électrisante, à mon avis. Ils étaient bien aussi encouragés par la foule.
Voilà, électrisant donc à coup sûr. Alors, si l'équipe canadienne s'est révélée au monde face à la Belgique, ses récents exploits, Benoît, ont été suivis de près au Canada.
Oui, la sélection canadienne a connu une longue traversée du désert après son passage éclair à la Coupe du Monde de 86, mais elle a pris un véritable envol ces derniers temps en terminant même au premier rang de la CONCACAF dans la phase de qualification en vue de la Coupe du Monde.
Oui, le Canada qui compte aussi maintenant des joueurs vedettes, ce qui n'était pas tout à fait le cas avant.
L'équipe a pu profiter ces dernières années de l'apport d'Alphonso Davies, joueur vedette du Bayern Munich, ou encore de Jonathan David qui s'aligne avec le club français de Lille. Le Canada est maintenant classé 41e au monde et n'a plus de complexe face aux équipes plus puissantes.
Et tout ça, en fait, part de la base dans les clubs canadiens.
Oui, près de 2 700 000 Canadiens sont inscrits dans des clubs de soccer. Et si la sélection masculine a connu son lot d'ennuis, l'équipe féminine du Canada brille depuis longtemps sur la scène internationale. Les femmes sont classées au 7e rang des équipes nationales de la FIFA.
Et on notera encore que la Suisse, de son côté, a battu le Cameroun cette semaine, 1-0. Et ironie de l'histoire, Nicolas, c'est un joueur natif du Cameroun, de Yaoundé, qui a marqué le but suisse.
Oui, Brill Embolo, c'est son nom. C'est d'ailleurs abstenu de célébrer son but. Il aurait pu jouer pour les Lions Indomptables du Cameroun, mais il a opté en 2015 pour l'équipe de la Suisse, le pays qu'il a rejoint enfant avec sa mère.
On ne va pas vous quitter, Nicolas, puisqu'on va rester en Afrique pour refermer l'accent des autres. Il va être question cette fois d'une décision prise par les autorités maliennes après l'expulsion de l'ambassadeur de France, après la fin de l'opération militaire Barkhane, après aussi les nombreux actes et les paroles de défiance. Bamako interdit désormais les ONG financées par la France.
Oui, les ONG non seulement françaises, mais aussi celles opérant au Mali sur financement de la France ou même simplement avec l'appui matériel ou technique de la France sont dorénavant interdites. L'annonce sonne comme une réponse à la suspension par Paris de son aide publique au développement. La France avait expliqué ne pas vouloir que cet argent serve à financer les mercenaires russes du groupe Wagner. L'aide humanitaire d'urgence était toutefois maintenue. Pour justifier leur décision, les autorités maliennes de transition assurent que l'aide française est un moyen de chantage et qu'elle sert à soutenir les groupes terroristes actifs au Mali.
Et cette décision, elle pourrait avoir un sérieux impact sur le terrain.
Oui, le nombre d'organisations concernées n'est pas encore totalement établi, mais elles se comptent en dizaines, y compris de nombreuses associations maliennes. Elles œuvrent dans la santé, l'aide alimentaire ou la construction de réseaux d'eau potable. En attendant des précisions, plusieurs ONG ont d'ores et déjà suspendu une partie de leurs activités. Selon l'ONU, 7 500 000 Maliens, plus du tiers de la population, ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Coordination Sud, collectif d'ONG françaises, déplore être pris dans une bataille diplomatique dont les populations vont payer le prix.
Nicolas Sûr et RFI pour refermer l'accent des autres cette semaine. Les médias francophones publics vous retrouvent avec beaucoup de plaisir dans 8 jours, comme d'habitude, avec Radio-Canada, la radio-télévision suisse, RFI, France Bleu et la RTBF. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine.